Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers différentes expériences de vie. Donc là, on est sur un festival, le Grand Bivouac, où je retrouve pas mal de voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des photographes. Donc j'aime bien vous donner la parole pour savoir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à prendre la route, quelles sont les motivations derrière le voyage, qu'est-ce que le voyage nous apporte, nous apprend. Donc avec moi, Fanny Laurent. Donc toi, tu étais sur un stand avec ton dernier bouquin, Ganga. Donc on va sûrement parler du Gange et de l'Inde dans cette émission, mais pas que. Avant de parler de ton bouquin, c'est plutôt toi qui va m'intéresser. Donc qui es-tu, Fanny? Et peut-être ton lien avec le voyage, à quel moment tu as envie d'aller voir ce qui se passait en dehors de nos frontières?
Alors, moi, mon premier gros voyage, justement, toute seule, c'était l'Inde. Je suis partie à 19 ans en échange universitaire à Delhi. Et j'ai eu du mal à partir, je suis restée un an et demi au total en prolongeant mon visa avec des expériences humanitaires, un stage, etc. Ce qui m'a donné l'occasion de pas mal vadrouiller tout autour du pays, puisqu'il y a un grand pays, donc même un an et demi n'a pas suffi évidemment. Donc là c'était vraiment ma première expérience de voyage seule. Suite à ça, je suis partie en Australie un an, je suis partie ensuite vivre au Canada, j'ai fait un petit détour par l'île de la Réunion où je suis restée 4 à 5 mois. Et aujourd'hui je travaille dans le monde du tourisme, donc je suis vraiment restée dans le même milieu.
On va retourner à ce voyage en Inde. Donc tu dis t'as 19 ans, c'est ça, quand tu pars en Inde la première fois, tu y restes un an et demi. Donc c'est quand même particulier comme premier voyage, parce que j'entends beaucoup dire chez les voyageurs, l'Inde je le ferai plus tard quand je serai prêt, j'ai d'abord besoin de vivre d'autres expériences. Et toi, non, 19 ans, l'Inde. Donc voilà, t'avais pas cette appréhension qu'on peut avoir pour partir dans ce pays où effectivement c'est foisonnant de bruit, de couleurs, d'odeurs, de tout.
Alors justement, moi ce que je cherchais, c'était vraiment le dépaysement total. J'avais l'opportunité de partir dans pas mal d'autres pays. L'Asie m'avait toujours attirée. J'ai eu aussi la chance de voyager un petit peu avec mes parents quand j'étais jeune. Donc mes parents m'ont déjà transmis ce goût du voyage. Et en fait, au contraire, je pense rétrospectivement que l'Inde, c'est un voyage à faire quand on a une certaine candeur, une certaine... si je refaisais ce voyage tel quel aujourd'hui à 32 ans, je pense que j'aurais peut-être des méfiances, des préjugés. Alors que là, à 19 ans, j'avais, je sais pas, une espèce voilà, de candeur, d'émerveillement. J'étais vraiment émerveillée de tout. Tout était nouveau, tout était une expérience à vivre. Et il y a aussi ce truc avec l'Inde qui nous prend au bout de quelques semaines, quelques mois, on lâche prise. Et puis en fait, quand on nous propose un thé ou de nous inviter dans une famille, ou enfin, moi j'ai fait du stop, j'ai beaucoup voyagé en train toute seule. Et en fait, j'ai eu que des expériences, bon, j'étais aussi un petit peu inconsciente peut-être, mais ça allait aussi avec l'âge et le manque d'expérience, mais j'ai vécu des expériences incroyables parce que j'ai appris à faire confiance et à accepter l'inconnu et vraiment à dire oui, en fait, ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment quelque chose que l'Inde m'a appris. Je pense que peut-être il faut faire ce voyage jeune pour avoir cette ouverture et ce manque de méfiance qu'on a peut-être moins quand on est plus âgé.
Donc t'as ton visa d'un an pour partir en Inde, ou non, tu l'as renouvelé plusieurs fois là-bas, tu disais, mais c'était quoi l'idée de partir en Inde à Delhi? Il y avait quand même un point d'ancrage, le point d'accroche en arrivant là-bas.
Oui, c'était dans le cadre d'un échange universitaire. De base, c'était pour passer ma troisième année d'études à Delhi, donc au Shriram College of Commerce, une université dans le nord de Delhi. C'est avéré que les cours ne demandaient pas non plus un... J'étais pas très assidue en cours, et au bout d'un moment, j'ai un peu délaissé l'université pour voyager à travers le pays, ce qui a été en réalité beaucoup plus instructif que d'aller en cours tous les jours. Et suite à cette année universitaire, j'ai fait un stage de plusieurs mois, et ensuite je suis allée donner un coup de main dans une association qui s'appelle Tara, qui aide les enfants des rues à Delhi.
Alors on entend dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'il y aurait une cellule psychologique à l'ambassade de France pour tous les Français qui se retrouvent en Inde et qui pètent les plombs.
Il paraît, oui, c'est le syndrome de l'Inde, au même titre qu'il y a le syndrome de Paris, il me semble. Parce que ça fait partie de ces destinations qui ont une aura tellement... Il y a quelque chose, on se construit une image d'Épinal qui est très très forte. Et on peut effectivement être... Je crois que le syndrome de l'Inde, c'était surtout à partir des années 70, quand on a eu beaucoup d'Occidentaux post-68 art qui sont partis sur les routes de Katmandou et qui sont un peu perdus à Goa, en Inde. Donc on a eu des... Il y a ce genre de légende urbaine où on pense à des étudiants qui ont brûlé leur passeport dès qu'ils sont arrivés en Inde, qui sont aujourd'hui des amérantes à Goa sur les marchés aux puces ou dans les rêves parties. Et j'aime bien, j'ai envie de me dire que peut-être ce sont des légendes et j'ai envie de me dire que c'est un petit peu vrai et puis qu'il y a un fond de vérité derrière. Il y a énormément de contes, de légendes, d'histoires un petit peu absurdes comme ça en Inde qui circule et ça fait partie aussi de la destination.
Alors j'aimerais bien que tu nous racontes ou que tu nous rassures parce que l'Inde fait partie des destinations qui font peur, surtout quand on est une femme et qu'on voyage seule.
C'est vrai que moi quand j'y étais, c'était pile l'année, donc j'étais en 2011-2012 et c'était l'année où il y a eu un viol autour de Saket qui a fait grand bruit parce que c'était une histoire absolument atroce qui s'est déroulée à 10 minutes de là où j'habitais. On entend beaucoup de choses négatives sur l'Inde parce qu'il y a une image de l'occidental qui est un petit peu biaisée. En fait, une femme occidentale en Inde, c'est une femme qui a le qui peut choisir ses partenaires sentimentaux. De ce fait, les Indiens pensent que, étant donné qu'on peut choisir, contrairement à une Indienne qui ne peut pas vraiment choisir son partenaire sentimental, c'est ouvert, quoi. Pourquoi pas tenter ? Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me regardaient avec des grands yeux, qui me filmaient pendant tout un trajet en métro que j'ai fait pour aller à l'université. Y avait un gars devant moi qui m'a filmé, mais sans interagir, voilà. On m'a touché les cheveux parce que je suis blonde, j'ai les yeux clairs et je voyageais avec un ami qui avait les yeux bleus. Donc là, c'était... c'est ce côté un peu... On continue d'être vraiment très étrange pour des yeux indiens. Moi, j'ai aussi rencontré beaucoup de familles, beaucoup de... même des personnes seules, surtout des hommes qui me parlaient et j'avais, comme je le disais au début, cette espèce de méfiance. Mais en fait, je pense que chez les Indiens, en tout cas à l'époque où j'étais, il y a ce côté, j'étais un animal étrange, quoi. J'étais un ovni, qu'est-ce que je faisais là toute seule, cette petite nana qui voyageait toute seule en Inde, sans mari, sans famille. Et en fait, il y a ce côté plutôt attrait de l'étrange qui fait que les Indiens ont envie de venir vous parler. Mais j'ai beaucoup voyagé seule dans les trains, comme je l'ai dit, et dans les trains, forcément quelqu'un qui venait me prendre sous son aile. Donc des familles qui venaient me dire de venir dormir plutôt avec eux, qui partageaient le pique-nique. Je me suis endormie dans un train qui partait de Goa pour aller jusqu'au Kerala. Et apparemment, j'avais l'air d'avoir froid dans le train. Je me suis réveillée, j'avais une couverture sur moi. Et c'était mon voisin d'en face qui m'avait donné sa couverture parce que j'avais l'air d'avoir froid. Et ensuite, il allait chercher un thé. Et puis, je l'ai plus jamais revu. Il a jamais essayé de prendre mon numéro. Enfin, de toute façon, j'avais pas de téléphone à l'époque. Donc, il y a aussi beaucoup de ce côté contact qui n'est pas de la drague, qui est juste ce contact de on vient de voir parce que t'es un animal étrange, donc on vient de parler et faut accepter ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est quand même le seul pays, il y a un côté intrusif, je sais que j'ai des images de seul pays où on vient pour te proposer de te faire un massage des épaules dans la rue, te couper les cheveux ou te laver les oreilles aussi, t'as des gens qui viennent avec un bout de fil de fer pour te laver les oreilles quoi, t'as rien demandé à personne.
Oui absolument, alors j'ai pas dit oui, mais oui c'est l'interaction avec le plus dépaysant. Je pense que c'est un des pays les plus dépaysants où je suis allée jusqu'à date. Donc il y a tout un tas de trucs qui se passent, on ne comprend pas tout. Effectivement, par exemple, à Varanasi, où se déroule mon roman, Varanasi, c'est vraiment un lieu où je trouve que c'est la quintessence de l'Inde, parce que la vie et la mort se côtoient constamment. C'est une ville, c'est la ville qui est la première ville peuplée au monde, il me semble. C'est une ville où les gens viennent mourir parce qu'on échappe ainsi au cycle des réincarnations. Donc il y a des brasiers qui viennent, qui brûlent toute la journée, toute la nuit pour brûler les cadavres des croyants hindous qui vont ensuite être jetés dans le Gange. Donc c'est une ville très très chargée symboliquement, spirituellement. Et dans cette ville-là, du coup, bah, y a des gens qui viennent de temps en temps nous expliquer ce qui se passe. Bah, et on comprend rien. C'est vraiment la célébration de la mort et la cohabitation de la mort et de la vie. Et ça, pour un esprit occidental, c'est très très dur à appréhender et à percer. Et là, en parlant aux gens, ou alors quand les gens viennent nous parler, ils essayent de décrypter pour nous, de nous faire comprendre ce qui se passe. Et ce qui est rigolo en Inde, c'est que quand je me suis replongée dans mes carnets de voyage, je me suis dit « Ah ouais, j'avais vraiment rien compris. » Parce que les premières pages, je dis « Alors, on m'a expliqué. Shiva, c'est le dieu de tel... voilà. Shiva, c'est le dieu de ci, Vishnu, c'est le dieu de ça. Et puis, le côté des avatars dans le panthéon hindouiste, ça se passe comme ça. » Puis, quelques pages plus tard, on me dit « Alors, en fait, pas trop, parce que je suis allée dans une autre région. » On m'a expliqué qu'en réalité, Vishnu, c'était cette personne-là. Enfin bref. Et du coup, au bout d'un an et demi, on a quand même beaucoup de mal à percer tous les mystères et tous les secrets de l'Inde. Mais c'est ça qui fait le charme du pays aussi.
C'est vrai que c'est très rigolo parce que dans leur cosmologie, dans tous ces dieux, on s'y perd totalement. Et je pense qu'eux-mêmes s'y perdent. Parce que tu peux poser la même question à deux Indiens et tu auras une réponse différente sur Brahma, Shiva, Vishnu. Et comme tu dis, tous les avatars qui sont autour. Et souvent, j'ai l'impression qu'on reproduit finalement des rites. Hein, ou des codes culturels sans vraiment comprendre le sens derrière la dévotion qu'on va avoir pour un dieu ou pour un autre. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi discuter et dialoguer avec eux parce que plus je pose des questions, plus je me perds dans le panthéon des dieux, quoi.
Absolument, c'est vraiment ça. On pense avoir compris et en fait ce sont des raisonnements, on applique quand même des raisonnements à l'occidental tel qu'on nous les a enseignés, donc en fait nos raisonnements français ne sont pas forcément pertinents pour comprendre la façon dont les hindous pensent. Et puis l'hindouisme, c'est une des religions les plus anciennes au monde, l'Ayurveda, les Védas, ce sont des textes mais très très anciens dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Donc et ce que tu me dis, ça me fait penser justement à la façon dont l'hindouisme est pratiqué à La Réunion, où en fait les Réunionnais qui sont arrivés les Indiens qui sont arrivés à La Réunion n'étaient pas des brahmanes, n'étaient pas des prêtres ni des érudits, c'était des travailleurs, les malabars. Et du coup ils ont essayé quand même de reproduire toutes les rites de dévotion qu'ils ont connus en Inde mais à La Réunion. Donc on arrive à des espèces de rites mais pas du tout chapeautés par le clergé hindou, et donc ça fait des, voilà, c'est pour ça qu'on a des rites qui sont complètement insolites et vraiment propres à La Réunion, qu'on retrouve pas du tout en Inde. On se demande qu'est-ce qui s'est passé entre... Et en fait, voilà, ce sont des Indiens qui ont voyagé, qui ont été déplacés et qui ont essayé de reproduire des choses qu'on leur a inculquées dans leur enfance, dans leur culture. Mais on voit que c'est complètement différent de l'hindouisme qui est pratiqué en Inde. Et ça, c'est assez révélateur, je trouve.
Fanny, donc tu es partie en Inde, ça a duré un an et demi ton voyage, donc tu es partie jeune, à l'âge de 19 ans, tu disais, pour suivre un cursus universitaire. Donc après, le voyage s'est prolongé. Tu t'es lancé ce défi d'écrire un petit peu un roman pour pouvoir partager toutes ces expériences, parce qu'apparemment, l'Inde t'a toujours suivi, hein. Tu disais que tu es partie il y a 11 ans, mais aujourd'hui encore, tu en parles avec apparemment passion et émotion. Donc Fanny, tu as écrit un bouquin pendant le confinement, Ganga. Donc voilà, qu'est-ce que tu as voulu partager à tous ceux à qui tu parles de l'Inde?
Alors, ce qui m'a marqué dans la littérature autour de l'Inde, c'était ce côté roman initiatique, en fait. Il y a beaucoup cet aspect qui va avec la destination, qui est que quand on arrive en Inde, on n'en repart pas, on repart pas les mêmes personnes. L'Inde fait quelque chose, l'Inde nous transforme, nous impacte, nous bouleverse, que ce soit en négatif ou en positif. C'est une de ces destinations très rares, je trouve, où... soit on adore, soit on déteste. J'ai croisé beaucoup de monde pendant le salon qui, justement, j'ai beaucoup de « Ah non, l'Inde, j'ai détesté » ou « L'Inde m'a complètement chamboulé ». C'est une destination qui peut être éprouvante, hein, je l'entends, avec beaucoup de sollicitations sensorielles, donc des odeurs, des couleurs, et l'horrible se confronte au merveilleux constamment, je trouve. Et du coup, j'ai voulu vraiment mettre cette espèce de dichotomie, j'ai voulu la mettre dans le roman, et ce côté initiatique, ce côté formateur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire du roman un petit conte initiatique avec un cheminement. Le côté le pèlerinage, le cheminement, très important aussi dans l'Inde, je trouve. Donc moi, Ganga raconte l'histoire d'un petit garçon qui va remonter le Gange jusqu'à sa source. Et le roman est aussi un peu construit comme un espèce de cycle, de cercle. Ça se passe sur un an. ans. Et en fait, c'est une espèce de boucle, comme le cycle des réincarnations, comme voilà, cette idée de remonter à la source, mais le fleuve qui coule en continu. Donc cette espèce de flux, en fait, que je trouvais important de mentionner dans le roman. Le petit garçon va rencontrer toute une galerie de personnages, voilà, des personnages assez atypiques, mais en fait qui font partie des figures classiques qu'on peut rencontrer en Inde, donc des pèlerins, hindous, bouddhistes. Il y a ce foisonnement de religion, d'obédience, de spiritualité de toutes parts. Beaucoup de syncrétisme aussi, mais aussi du très concret, des familles d'ouvriers, le système de castes évidemment, donc des castes qui forment, donc les castes c'est un système social en fait, une division de la société, donc avec ces gens de castes différentes qui vont avoir des modes de vie, des cultures complètement différentes. Également, le roman se passe dans les années 70, donc évidemment, on va croiser des hippies, des personnes, des occidentaux, bon, un petit peu comme moi, hein, qui viennent se confronter à l'étrange et voir un petit peu ce qui se passe dans ce pays qui vraiment a des racines millénaires, plurimillénaires. Et voilà, on croise la mort, la vie, la spiritualité et ce côté un petit peu mystique, réalisme magique aussi, qui est très prégnant en Inde.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Fanny, donc ce roman de ce petit garçon part de Varanasi, c'est ça, dans l'idée de remonter aux sources du Gange. Tu parles de toutes ces rencontres que pour y faire en Inde, il y a aussi les sadhus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces hommes assez fascinants qui ont fait le choix de renoncer à la vie matérielle ?
Oui, les sadhus, ce sont ces croyants qui sont devenus des ascètes. On en croise beaucoup dans tous les lieux sacrés, mais bon, en particulier sur les ghats de Varanasi, on les reconnaît parce qu'ils sont en général couverts de cendres. Après, je ne suis pas spécialiste dans toutes les sectes et les multiples sectes shivaïtes qu'il peut y avoir. Mais voilà, globalement, ce sont ces personnes qui ont fait vœu de... qui sont dans la sèse, qui sont couverts de cendres, qui ont des dreadlocks et qui fument la ganja. mais voilà, j'avoue que je ne suis pas spécialiste non plus, donc je pourrais pas expliquer exactement toutes les différences entre tous les sadhus qu'on peut trouver, mais ce sont voilà ces figures un petit peu mystiques et magiques qu'on trouve comme des grands fantômes tout le long du Gange. On en trouve aussi sur les sources du Gange, parce que les sources du Gange sont un lieu extrêmement sacré. Le Gange est une divinité, la déesse Ganga qui a laissé tomber sa chevelure et dans laquelle s'est baigné Shiva. La déesse Ganga était également très importante et très vénérée dans la mythologie hindoue. Et voilà, les sadhus sont ces personnages un petit peu très mystérieux et qui sont toujours très fascinants, surtout pour les occidentaux.
Alors c'est vrai que les occidentaux, on est nombreux quand même à voyager en Inde, souvent dans une forme de voyage initiatique et dans une forme de tourisme spirituel. Est-ce que toi aussi, dans ton voyage d'un an et demi, tu as fait le tour des ashrams ou pas forcément ? Quel était toi ton fil rouge quand tu t'es mis à voyager du nord au sud avec ton sac à dos ?
C'est vrai que moi j'ai un rapport à la religion qui a beaucoup changé en Inde. Je suis arrivée en Inde en athée convaincue, vraiment l'anticléricalisme était mon fer de lance parce que j'avais une image de la religion et qui était très j'étais vraiment convaincue que tout ça c'était du bullshit. Et en fait, en arrivant en Inde, je me suis rendu compte que j'éprouvais une certaine paix à m'asseoir dans les temples, à me laisser aller à la méditation, le yoga, toutes ces pratiques holistiques, en fait, qui faisaient partie. Donc, c'est une pratique très, très physique, en fait, de la spiritualité. Le yoga, c'est une pratique hindoue. Donc c'est une façon de vivre, de prier, en fait, qui est très dans le physique. Donc, ça, déjà, ça m'a interpellée. Et puis en fait, on peut pas rester indifférent à la spiritualité et à la religion en Inde. C'est pas possible de rester complètement hermétique, et que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme et même l'islam, et tous ces ponts qu'il y a entre toutes ces religions. Donc c'est aussi une façon d'appréhender la religion. Un Indien va respecter toutes les religions, en fait, et il va y avoir des choses complètement étranges pour un occidental, qui sont par exemple un des avatars dans l'hindouisme de Shiva se convertit au bouddhisme. Donc ça, c'est, enfin voilà, c'est comme si on avait quelqu'un dans la Bible qui était, qui se convertissait à l'islam. Enfin voilà, c'est des ponts qui sont créés. Et en fait, les Indiens considèrent, enfin, respectent toutes les religions. Donc l'athéisme, ils ne comprennent pas le concept. Par contre, ils vont avoir une forme de respect pour toutes les obédiences, toutes les religions. Et je sais pas, il y a un truc dans l'air qui flotte dans l'hindou. En hindou, on est obligé de s'y laisser aller, quoi. Et on trouve, je sais pas, ça, on trouve une forme de paix et on arrive à comprendre. De toute façon, la culture indienne n'est pas entendable si on ne se plonge pas dans la religion, pour moi.
En tout cas, tu disais, t'es parti profondément athée et la spiritualité peut pas laisser indifférent là-bas. Donc aujourd'hui, tu crois en quoi ?
Aujourd'hui, peut-être en des forces, en peut-être des esprits. En tout cas, je suis beaucoup moins catégorique là-dessus. Et puis, au reste, là, depuis que je suis rentrée, j'ai été amenée aussi à croiser des gens, des amis qui ont eu une expérience de spiritualité qui est différente de la mienne. Des gens qui sont peut-être un petit peu plus... comment dire ça sans paraître... branché sur le monde des esprits. J'ai rencontré des gens qui ont des sensibilités plus fines que les miennes et qui ont un lien avec voilà, qui sont peut-être un peu des sorcières, qui ont un lien avec les morts ou les esprits. Et en fait, ces gens-là, je suis beaucoup moins fermée à ce qu'ils me disent. Et en fait, j'arrive à comprendre. Ce sont mes amis, je leur fais confiance quand ils me disent qu'ils ont réussi à capter un frémissement dans l'air ou à comprendre certaines énergies. Je vais les croire. Je vais les croire et je vais essayer de comprendre ce qu'ils me disent. Et c'est quelque chose, je pense que c'est une attitude que j'aurais pas eue si j'étais pas passée par la case Inde, je pense. Parce que, en fait, je me rends compte que, des sorcières, des médiums, il y en a un petit peu dans toutes les, des chamans, il y en a un petit peu dans toutes les spiritualités du monde entier, en fait. Et c'est en faisant des rencontres qu'on adopte un petit peu une ouverture d'esprit et qu'on va peut-être être plus à même d'accepter ce genre d'expérience, je trouve.
C'est peut-être aussi la magie du voyage, hein, de pouvoir prendre du recul sur ses propres croyances et puis avoir une ouverture qu'on n'avait pas forcément avant de partir, avant de prendre la route, parce qu'on se rend compte que des fois tout son système de pensée ou son système de croyances ne fonctionne absolument pas, notamment en Inde ou dans d'autres pays.
Oui, absolument. D'une part parce qu'on rencontre des Indiens, mais aussi parce qu'on rencontre d'autres voyageurs d'horizons différents qui ont tous des raisons différentes d'être en Inde. Donc, il va y avoir les fous de l'Inde, comme on en a parlé. Mais aussi, voilà, vraiment des gens de tout horizon qui vont se retrouver en Inde. Et plus on voyage, plus on fait des rencontres atypiques, on sort de sa zone de confort. Ça, de toute façon, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans ton podcast. Et oui, ça nous amène à reconsidérer un peu nos idées reçues, tout simplement. Donc, en fait, quelqu'un qui voyage et qui campe sur ses positions, c'est quasiment impossible, en fait, pour moi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc toi, Fanny, le voyage n'est pas arrêté à l'Inde. Hein, ça a été ton premier, mais si j'ai bien compris, il y en a d'autres qui ont suivi. Tu parlais de l'Australie.
C'est sûr que ce premier voyage a ouvert des horizons pour moi. Cette envie de se confronter à l'autre, toujours. L'Australie, c'était côté vraiment... première civilisation au monde, tout l'art aborigène, ça c'est vraiment complètement fascinant. Ces premières terres, ces peuples premiers, je trouve ça vraiment captivant. Voilà, après ça a été le Canada, ces grandes terres en friche, et puis toujours, enfin je suis revenue à l'Asie, je suis allée les derniers voyages, c'était les Philippines, le Laos, la Corée. Je n'ai pas tout aimé, la Corée j'ai eu un petit peu de mal, mais... L'Asie entière a les yeux tournés vers le monde entier a les yeux tournés vers la Corée, donc je trouvais ça aussi intéressant de voir ce qui se passait là-bas. Et le prochain voyage est au Brésil. Je vais partir 3 semaines, donc sur les terres de Eldorado, mon premier roman, donc j'ai hâte. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'arrêter une fois qu'on a été atteinte par le virus du voyage.
Et c'est pour ça que tu bosses dans le tourisme aujourd'hui, parce que tu as voulu garder un petit peu un pied dans l'univers du voyage.
Oui, absolument. C'était le côté garder un pied dans l'univers du voyage, faire cette espèce de transfert de connaissances entre des backpackers et des clients qui passent par une agence de voyage. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'avoir tous ces gens qui se parlent et qui partagent des connaissances en vue de voilà, de donner envie et de, y a toujours cette espèce de flux continu d'informations qui circulent. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis être en contact aussi avec des gens, parce que mon travail dans l'agence de voyage était à un moment d'être en lien avec des correspondants locaux, des prestataires locaux, et par exemple des gens qui travaillaient pour mettre en valeur Lisan, qui est une région très méconnue de la Thaïlande. Et ben, j'avais envie, voilà, une des parties de mon travail, c'était de promouvoir Lisan auprès des touristes français qui voulaient découvrir la Thaïlande. Et là, c'était un autre visage de la Thaïlande complètement méconnu, mais avec par exemple des temples khmers complètement méconnus en pleine jungle que j'avais envie de mettre en avant, des coins du Cambodge complètement perdus où on s'est dit qu'on allait développer des itinéraires là-dessus. Voilà, c'était ce côté faire valoir une destination dans tout ce qu'elle a de prodigieux et de méconnu qui m'a animée pendant un moment.
Donc certains voyageurs vont aller dans un pays, après se spécialiser sur ce pays, y retourner plusieurs fois. Donc toi, j'ai l'impression que c'est vraiment cette envie de goûter à différentes cultures, différentes destinations sur différents continents.
Oui, moi j'aime bien passer du temps sur place. Évidemment, je me rends compte que tout le monde n'a pas cette opportunité, cette richesse, mais en vivant sur place, là le Québec, j'y étais il y a 10 ans, j'y suis retournée passé un an. Là, je viens juste de revenir. C'était important pour moi de d'y retourner, d'y rester plusieurs mois, de m'imprégner, de me faire des amis québécois, de vraiment comprendre comment réfléchissent les gens sur place, comment est-ce qu'on vit sur place, comment est-ce qu'on perçoit aussi les Français et la France et l'étranger. Ça, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est vrai que j'ai du mal avec je suis très lente. Quand je vais quelque part, quand je voyageais en Inde, j'avais pas vraiment de deadline, hein. Donc Varanasi, j'y suis arrivée, je me suis dit je vais rester 2-3 jours. Je crois que j'y suis restée bien plus longtemps, parce qu'en fait une journée je me levais, puis je me baladais dans les rues, je voyais des enfants qui faisaient du cerf-volant. Donc et ensuite ils m'ont appris à faire du cerf-volant, on est monté sur les toits de Varanasi, on a passé la journée à faire du cerf-volant, ils m'ont montré comment ils peignaient leur cerf-volant. À Varanasi, il y avait aussi beaucoup de musiciens qui venaient apprendre la musique traditionnelle indienne. La musique traditionnelle indienne, là, c'est le sitar et le tabla sur des ragas qui sont des gammes qui ne suivent pas du tout la même logique que nos gammes occidentales. Donc ça, pareil, on pourrait passer une vie entière à essayer de comprendre la logique de la musique classique indienne. Donc en fait voilà, j'aime bien voyager en me laissant aller au gré des rencontres, des conseils, puis il y a cette liberté de se dire tiens là, je peux en apprendre plus sur la culture indienne par la poésie, par la musique et se laisser aller dans le sud de l'Inde. Il y a par exemple les danses Kathakali et tout l'art Kathakali. Ça, c'est complètement fascinant, et pareil, on pourrait passer mais des semaines et des semaines à essayer de comprendre. Je crois qu'un danseur Kathakali, sa formation c'est au moins de 8 ans. Pour la danse qui passe aussi par la danse des yeux, il danse avec les yeux aussi, et ses yeux qui roulent dans les orbites, ça met plusieurs années à être maîtrisé. Et donc le voyage passe aussi par ces petits détails, ces petites portes d'entrée dans la culture et dans la compréhension du pays, du monde et de la population.
Ouais, mais ce que tu as dit, c'est hyper important dans le voyage, c'est d'avoir cette notion, c'est d'avoir du temps et de l'espace, hein, pour pouvoir effectivement se laisser porter par les rencontres, par les synchronicités, par les perches, les portes ouvertes. C'est peut-être ça qui va différencier aussi le touriste qui souvent part que sur une durée déterminée de 2 ou 3 semaines, alors que le voyageur souvent a beaucoup plus de temps et de disponibilité.
Oui, puis après, je vais pas cracher sur le tourisme non plus, parce que le tourisme fait vivre des populations. Les touristes, en fait, on est tous un petit peu des touristes, hein. Je me sens pas supérieure. Parfois, il y a un peu de mépris de classe, touriste versus voyageur, alors que moi, quand je vais dans une destination étrangère, je suis clairement une touriste, hein. Je prends des photos, je parle aux gens en posant des questions complètement débiles, donc je reste complètement touriste. Mais effectivement, si on a le loisir et le luxe de le faire, et l'espace mental aussi, c'est pas seulement du temps, c'est aussi un espace mental, une espèce d'ouverture, et de faire un peu le vide dans tout ce qu'on pense savoir sur une destination. Moi, quand je vais dans une destination, pourtant, je me documente à fond, je lis beaucoup d'auteurs de cette destination-là avant d'y aller. Et en fait, je me rends compte en rentrant que toutes ces idées-là que j'avais ont complètement été chamboulées et bouleversées par ce que j'ai vécu sur place. Donc, il faut garder une espèce d'espace vide quand on voyage pour glaner plein de petites choses et revenir avec encore cette curiosité intacte et en essayant d'avoir un petit peu plus compris qu'à l'aller ce qui se passait sur place, quoi.
Fanny, merci beaucoup. Merci à toi. Donc Fanny Laurent, donc le dernier bouquin, c'est Ganga, rencontre le long du fleuve sacré.
Absolument. Donc Ganga, c'est le premier roman que j'ai écrit et c'est celui qui me, je crois que je le porte le plus dans mon cœur et qui est le plus personnel. J'ai aussi écrit deux autres romans qui ont été publiés. L'un s'appelle Eldorado et le deuxième, le dernier s'appelle Déraciné. Il parle des enfants de la Creuse. Ce sont des enfants réunionnais qui ont été transplantés, comme on disait à l'époque, en Creuse, donc dans la campagne de métropole française, entre les années 60 et 80.
Fanny, merci, merci beaucoup.
Merci infiniment et bon salon.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.